savoir, Louise Touret.
Bienvenue dans le magazine de l'éducation et de la transmission des savoirs de France Culture. Nous sommes ensemble pour 45 minutes avec des enseignants du premier degré pour un numéro consacré à l'école et ses réformes. En effet, la loi pour une école de la confiance de Jean-Michel Blanquer arrive bientôt au Sénat et mobilise contre elle beaucoup plus sensiblement depuis le 19 mars. Et elle est particulièrement contestée, cette loi, à l'école primaire, l'école des enfants jusqu'à 11 ans, celle des maîtresses, des instits ou des PE, comme ils s'appellent eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qui a finalement fait descendre les professeurs des écoles dans la rue, plus nombreux? Qu'est-ce qui leur fait faire grève? Comment et pourquoi organisent-ils des réunions avec les parents? Pourquoi disent-ils que l'école publique est menacée? Croient-ils, comme le dit le ministre, à des bobards sans chercher à comprendre les objectifs de sa loi? Peut-on parler de malaise enseignant? Et nous pensons au suicide d'un instituteur très aimé, Jean Villot, qui a légitimement ému l'opinion. Qu'est-ce qui rend ou pourrait rendre le public sensible aux revendications des enseignants aujourd'hui? L'attachement des citoyens à l'école de la République est-il toujours aussi fort? Doit-on le questionner? Enfin, quid du niveau des écoliers français? C'est d'actualité. Une étude du ministère de l'Éducation a paru cette semaine et elle nous apprend que le niveau en mathématiques s'effondre. En ce moment et depuis 30 ans. Alors, que défendent les instituts? Deux d'entre eux donc sont avec nous, accompagnés d'un chercheur qui les observe de près et depuis longtemps. Il vient de publier un ouvrage sur ce métier. En fin d'émission, une très belle leçon de choses de Sophie Bobert avec Ruth Beckerman, la documentaliste, est présente à Paris, hommage au musée d'art et d'histoire juif pour le cycle filmé Le devenir invisible. Elle nous racontera son enfance viennoise. Et je salue les invités de ce numéro d'Être et Savoir. Catherine Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur des... directrice.
Oh oui.
J'ai mal lu, c'était vraiment écrit directrice, pardon. Directrice d'école à Saint-Denis et représentante du principal syndicat du premier degré, le SNUIPP. Lucien Marbeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur des écoles. Vous dites instit?
Instit, j'aime bien.
Oui, parce que votre blog s'appelle l'Instit Humeur. Nous avons déjà reçu dans cette émission pour un livre en particulier, Vie ma vie d'Instit, qui a été publié chez Fayard en 2015. Et vous écrivez sur l'actualité de l'école et les réformes, donc sur le site des blogs de France Télévisions ou France Info.
Je crois France maintenant.
Info. Oui, hein. André Desrobert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités, Institut des sciences et pratiques d'éducation et de formation de l'université Lyon-Lumière Lyon 2 et auteur de Professeur des écoles au 21e siècle avec Françoise Carreau, portrait socio-professionnel publié au PUF. Première question, puisque c'est l'actualité, je cherche à comprendre pourquoi les enseignants du premier degré, maîtres, maîtresses, PE, donc professeurs des écoles, directeurs et directrices, se sont particulièrement mobilisés. On connaissait les projets du ministre et finalement cette mobilisation a pris, hein, c'est le mot qu'on peut employer, particulièrement depuis mi-mars à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé, Catherine Da Silva?
Je crois que c'est au moment où la loi a été votée. Là, tout le monde a pris conscience qu'effectivement tout y était. Ce que nous portions en disant attention, attention, il faut savoir qu'il n'a pas été présenté ce projet de loi au syndicat, donc on ne pouvait pas vraiment voir tout ce qu'il y avait, même si on pouvait se douter de l'orientation qui allait être portée. Donc on n'a pas pu dire exactement ce qu'il y avait dedans et voilà, dire aux collègues attention à ce qui se passe. Et c'est finalement quand la loi a été votée, avec le déroulement à l'Assemblée, qu'on a vu les articles s'ajouter les uns aux autres, les amendements s'ajouter les uns aux autres, et se rendre compte, une fois que tout était voté, de ce qui allait se passer. Et effectivement, l'un des amendements qu'on retiendra, c'est les EPSF, les écoles des savoirs fondamentaux. Alors, on dit disparition du directeur d'école dans ces établissements, effectivement. Et c'est ça aussi qui a bousculé nos collègues, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un autre projet d'école qui était sous-jacent à cette loi et qui heurte de plein fouet ce que nous, le pourquoi nous sommes dans cette école et pourquoi nous sommes enseignants.
Donc les EPSF verraient la disparition des directeurs d'école, mais c'est vraiment au conditionnel. D'abord, ça concernerait très peu d'écoles, mais les moyens pourraient être effectivement mutualisés ou transférés au collège. Ça reste tout de même assez flou, assez hypothétique. Alors, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup choqué les enseignants, semble-t-il, d'après les paroles que j'ai pu recueillir. J'ai pris le temps cette semaine de parler à de nombreux enseignants. C'est le fait que le ministre parle de bobards concernant ce qui circulait sur sa loi. Lucien Marbeuf, est-ce que ça, pour vous, ça a pu constituer un motif de colère de la part des enseignants du premier degré ?
Ouais, enfin, c'est le motif de cette semaine, ça. Des motifs, il y en avait avant. En effet, ça fait plusieurs semaines qu'il y a vraiment, sur le terrain, on le sent, beaucoup d'effervescence, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de colère. Le terme de bobard, cette semaine, on a rajouté une couche, si j'ose dire. Voilà, et ce d'autant que c'est d'une part méprisant pour les enseignants qui passent beaucoup de temps à se documenter, à lire le texte, le projet de loi, à suivre un petit peu les débats sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Donc les enseignants savent pour une grande partie ce qu'ils lisent. Certes, il y a eu des informations erronées qui ont circulé, mais enfin je pense qu'elles sont assez minoritaires. Et puis deuxièmement, je pense que peut-être qu'à un moment, il faut aussi balayer devant sa porte et que il y aurait peut-être moins d'informations erronées qui circuleraient s'il y avait une plus grande clarté dans les propos du ministre, en particulier sur cette histoire des EPSF, où on entend un peu tout et son contraire, et où il y a un flou artistique total qui règne.
Ça reste encore peut-être à préciser, effectivement, d'après les informations que j'ai pu moi-même consulter. Pour revenir à ce qu'a dit Catherine Da Silva, Lucien Marbeuf, est-ce que pour vous, c'est la loi et l'ensemble des articles qui, mis bout à bout, font sens ? J'ajoute que cette analyse, par exemple, est celle d'un universitaire tel que Xavier Ponce. Il l'a écrit dans Le Monde, c'est quelqu'un qui connaît très bien l'école. Et est-ce que le ministre, pour vous, n'avançait pas clairement ? Et là, c'est dessiné un projet pour l'école. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez compris?
Oui et non. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, en effet, le passage devant l'Assemblée a quelque part exposé, avec la couverture qui en est faite, avec maintenant le fait de pouvoir suivre quasiment en direct, à travers les live tweets des journalistes, a exposé la loi aux yeux de tous ceux qui voulaient suivre tout ça. Et de fait, ça a été un catalyseur. Moi, je pense que ça fait longtemps que la colère gronde. Qu'on vient de loin, que pendant 18 mois, les enseignants ont très peu réagi à ce qui se passait. D'une part parce que, faut pas oublier qu'ils avaient quand même massivement voté pour le président Macron, et que le ministre de l'Éducation nationale faisant partie de ce gouvernement, je pense qu'il y a eu un long moment d'écoute, d'attention. Et puis petit à petit, il y a eu un certain nombre de choses dont on pourra reparler. Il y a eu le fameux guide orange au printemps dernier, il y a eu pas de vague à l'automne.
Le guide orange contenait des recommandations pédagogiques très précises.
Ah oui.
Mais on y reviendra à la pédagogie.
Il y a eu comme ça un certain nombre de choses qui ont déjà crispé, qui ont interpellé, mais pas au point de susciter une colère aussi vaste. Le passage devant l'Assemblée, avec tout ce que la loi recèle, a créé ce premier choc. Et puis, on en reparle, mais c'est vrai que le monde de l'école a été très secoué par le suicide de Jean Vilot et par la réaction ou le manque de réaction un petit peu de l'institution, y compris de celle du ministre, qui est devenue très tardivement. Et ça a renforcé un petit peu ce sentiment d'être un peu seul, pas franchement soutenu, pas franchement écouté. Et ça a été un deuxième temps très fort de la colère.
Jean Vilot, c'est un instituteur donc qui a mis fin à ses jours suite à une altercation avec un élève. La mère de cet élève va au commissariat. L'enseignant reçoit des messages. Voilà, il rentre dans une inquiétude qu'on ne peut pas expliquer, évidemment, et se suicide. Et là-dessus, vous le disiez, Lucien Marbeuf, la réaction de l'administration a été de dire à tout le monde de se taire. Et de ne pas ébruiter l'affaire, et voilà, qui émeut terriblement les enseignants et qui leur fait sentir toute la précarité de leur situation, d'une certaine manière. Et c'est pour parler de ça aussi que je voulais vous inviter, André Robert, parce que cette fragilité des enseignants, qui se double en même temps d'un attachement très fort à leur métier, elle est constitutive de leur identité professionnelle aujourd'hui?
Oui, alors je crois qu'il y a un très grand engagement professionnel de la grande majorité des enseignants du premier degré. Et lorsque cet engagement professionnel est mis en cause par les autorités, là, il y a une réaction. Hein. Dans notre livre, Françoise Carreau et moi, pour faire suite aux échanges précédents, nous avions relevé sur la base de 70 entretiens hein, très diversifiés avec des enseignants et des enseignantes de tous âges et de tous les territoires, enfin de territoires diversifiés, tout type d'école. Nous avions relevé une certaine forme de mise à distance ces dernières années, ces derniers mois, vis-à-vis de l'outil grève. Mais nous disions aussi dans le livre que pour autant, ce n'était pas un outil qui était définitivement rejeté, définitivement mis à l'écart, dès lors que une circonstance, une situation allait toucher à l'identité professionnelle profonde. Or, il me semble que la loi telle qu'elle est mise dans le débat public après son passage à l'Assemblée et avant son vote en deuxième lecture au Sénat, comporte des éléments tout à fait propres à mobiliser. On le voit depuis au moins le 19 mars, hein, le 30 mars et le 4 avril, les enseignants contre elle. L'article 1, qui est un article de défiance à l'endroit des enseignants dans une loi dite de confiance, et notamment la
Alors,
création
précise,
de...
On précise pourquoi cet article serait un article de défiance.
Bien, cet article est un article de défiance dans la mesure où il prétend recommander aux enseignants la neutralité, la bienveillance, la non-dénonciation de leurs collègues. Je me demande d'où cela provient, parce que je ne sache pas que ce soit un milieu particulièrement où la délation entre collègues ait lieu, et ce rappel à la déontologie, bon, qui fait partie de la déontologie que les fonctionnaires ont intériorisé, sonne comme un rappel à l'ordre autoritariste, si vous voulez, et qui est une atteinte à la liberté pédagogique. Deuxième élément de la loi qui est très mobilisateur, les collègues en ont parlé, c'est la création à l'occasion d'un amendement hein, de ces établissements publics des savoirs fondamentaux qui mettraient les directeurs d'école sous la tutelle des principaux de collège. Et ça, je crois que c'est une atteinte à l'identité professionnelle des professeurs d'école à laquelle ils tiennent profondément.
Est-ce qu'on touche par là, au-delà de l'identité professionnelle des enseignants, à l'identité de l'école, parce que l'école, c'est une institution qui est proche du citoyen, d'abord parce qu'elle enseigne à tous les enfants de la République, c'est une institution républicaine, on va pas faire l'histoire de la Troisième République et de l'école obligatoire. Est-ce que là, en éloignant le directeur d'école, bon, c'est pas finalement peut-être un personnage si important que ça, je suis désolée, on ne rencontre pas tous les jours, est-ce qu'en l'éloignant du public, on touche à un symbole? André Robert.
Oui, et d'abord, il y a une incertitude sur la mise en place de ces établissements. Le ministre a fait machine arrière en disant qu'il ne serait créé que sur la base du volontariat. Ça touche à l'identité de l'école, dans la mesure où aujourd'hui, mais je parle sous le contrôle de mes collègues qui exercent dans le premier degré, le directeur ou la directrice est un personnage extrêmement important dans les relations avec les collègues, dans les relations avec les familles, mais avec cette particularité qu'il a une responsabilité spéciale, mais pas de statut hiérarchique supérieur. Et ça, c'est extrêmement important. Alors là, on le mettrait en position de relative infériorité par rapport à un supérieur hiérarchique, principal de collège, et on mettrait des écrans entre lui ou elle et les familles, voire ses collègues.
Donc l'idée, c'est d'être plus proche. Alors l'idée aussi pour les enseignants mobilisés, c'est pas tous les enseignants, hein, mais c'est le sujet dont on a choisi de parler aujourd'hui, c'est aussi de convaincre les parents. Et c'est peut-être la force des enseignants que de pouvoir, puisqu'ils sont encore proches des parents, les convertir à leur cause. En tout cas, on l'a vu dans des écoles parisiennes particulièrement. Je rappelle quand même les chiffres de la grève à Paris. Il y a eu 70% de grévistes dans le premier degré. Beaucoup beaucoup moins dans le second degré. Je prends ce chiffre parisien comme un exemple. La grève a des résultats complètement variés à travers le territoire, mais parfois elle a été exceptionnellement suivie. Convaincre les parents donc et faire entendre leurs paroles, ces parents qu'on a entendus dans ce reportage de France 2 diffusé jeudi.
Vous imaginez un directeur pour plusieurs écoles, est-ce qu'il serait capable de savoir tout ce qui se passe dans toutes ces écoles? C'est impossible.
Et il y a beaucoup de mesures qui vont être prises, qui vont rendre l'école un peu plus précaire, un peu plus difficile à gérer, où les enfants seraient moins bien accompagnés.
Il y a une vraie colère que je pense que le ministère ne mesure pas. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, des enseignants qui se sentent dénigrés, qui ne se sentent pas respectés dans leur travail.
Parents et enseignants espèrent voir le projet de loi Blanquer corrigé. La réforme doit être examinée devant le Sénat début mai.
France Culture, Être et Savoir, Louise Touret. Il est 17h31 sur France Culture. Pour ceux qui nous écoutent en direct, Catherine Da Silva, je voyais réagir à ce petit reportage de France 2. Est-ce que d'ailleurs ça fait partie des choses que vous pouvez faire, parce que une certaine partie du public pourrait s'en émouvoir? Est-ce qu'on est à l'école pour militer auprès des parents?
Mais c'est un vrai sujet, parce que j'ai vu que sur pas mal de tweets, les députés En Marche s'inquiétaient, hein, et donc heureusement qu'il va y avoir l'article 1, comme ça on ne le fera plus.
Vous êtes ironique.
Voilà, toujours. Moi, ce qui m'interroge, c'est comment peut-on faire, quand on est citoyen, pour savoir si les services publics fonctionnent bien, si les fonctionnaires d'État ne disent pas ce qui ne va pas? Voilà. Donc, à un moment donné, une entreprise, quand ça ne va pas, va se casser la figure d'elle-même. Les services publics vont se casser la figure et le citoyen lambda n'en sera pas au courant si nous ne l'alertons pas. Alors, c'est vrai, la proximité des écoles avec les familles fait qu'il est plus facile pour nous, et on va pas se le cacher, de recevoir les familles à l'école et de faire, par exemple, des goûters d'information, des apéros d'information,
des nuits des écoles. Circuler une bande dessinée. Alors, c'est une bande dessinée d'Emma. C'est la dessinatrice qui a populariser, on peut dire ça comme ça, le concept de charge mentale que beaucoup d'entre nous connaissent et qui, là, prend fait et cause pour votre cause, en fait, Catherine Da Silva, et celle des syndicats et des enseignants contestataires, en disant qu'elle, elle a assisté à une réunion. Donc, l'école elle-même se fait la chambre d'écho de la contestation. C'est une défense d'une certaine vision de l'école?
C'est ça, c'est une défense d'une certaine vision de l'école. C'est l'idée que nous sommes attachés à une école, alors même si elle n'est pas parfaite et qu'effectivement elle reproduit les inégalités sociales, et c'est bien ce qu'on... Voilà, il faut énormément travailler là-dessus, énormément, et il n'y a pas de doute là-dessus. Et d'autant moi, qui suis, d'autant plus que je suis en quartier populaire, puisque je suis en Seine-Saint-Denis, je le vois tous les jours. Mais en même temps, créer dans la loi la possibilité d'avoir une école dites des savoirs fondamentaux, donc le minimum, on va dire, pour certains quartiers. Et puis l'école lambda avec le programme. Et il y a aussi dans la loi un article qui prévoit les écoles avec une langue étrangère, de faire l'enseignement à la fois en français et dans une langue étrangère. C'est une école publique, hein, pour un certain public, justement, ça laisse sceptique hein, sur ce que va devenir l'école. Et oui, évidemment, je suis directrice d'école, je ne vais pas disparaître à la rentrée 2019. Et c'est ça qui est compliqué à expliquer aux parents.
Un renforcement, finalement, des inégalités qui se dessinent. Pour vous, le ministre dit exactement le contraire. D'ailleurs, oui, je dois préciser, je le redirai, qu'il est invité au matin de France Culture demain. Donc écoutez-le, sûrement vous aurez peut-être des réponses. Ne levez pas les yeux au ciel. Quand même, vous dites, oui, l'école est attaquée, mais ce qui attaque l'école, ce sont les résultats. On compare le niveau des élèves en dictée. Alors, c'est une orthographe dont le niveau s'effondre en mathématiques. Donc, étude de l'ADEPS et la direction des statistiques de l'éducation nationale. Le niveau des plus mauvais élèves de 1987 est meilleur que celui des meilleurs d'aujourd'hui, c'est la différence entre une génération, entre vous et vos enfants, peut-être, en tout cas, c'est mon cas, et on est en droit de s'inquiéter, tout de même, de cette école que vous cherchez à défendre. Mais pourquoi, si le niveau est si mauvais, ne pas vouloir la réformer?
Alors, il y a réformer, et il y a tout casser et faire autrement, et avoir un autre projet de société. Parce que dans cette loi pour l'école, il y a une certaine idée de l'école. Il y aurait trois écoles. Moi, j'en suis convaincue. Et c'est ce que nous portons au SNUPP. L'idée qu'il y aura une école pour les savoirs fondamentaux, pour un certain public qui n'aurait pas les capacités d'aller plus loin que le lire, écrire, compter. Et puis une école lambda, on va dire, pour le tout venant. Et enfin, l'école pour les élites. C'est écrit dans la loi. Alors on va nous dire oui, il faudra préciser, etc. Mais c'est écrit comme ça dans la loi. Et moi qui viens des quartiers populaires, je peux vous dire que dans le 93, on a, nous, des solutions. On a toujours proposé des solutions à tous les gouvernements précédents et aucune n'a été retenue. Quand on a fait les CP dédoublés...
Qu'est-ce qui vous manque ? Des moyens ?
Pas que des moyens, parce qu'à chaque fois on nous dit, oui, vous voulez tout le temps des gens en plus, et puis vous ne faites pas. Oui, non mais je sais, c'est la critique qu'on va nous faire. Mais en même temps, il y a un problème structurel auquel on ne veut pas répondre. Comment fait-on justement pour que des enfants de la Seine-Saint-Denis fassent des études longues ? Comment fait-on pour justement ces enfants des quartiers populaires fassent des études longues et deviennent eux aussi un jour enseignants ? Quels moyens on se donne pour que ces enfants de quartiers pauvres finissent par faire des études longues ? Parce que ça coûte cher. Et à un moment donné, on ne répond jamais aux problèmes structurels qui sont liés à ces quartiers populaires, qu'ils soient dans le rural ou dans l'hyperurbain comme chez nous, on ne répond pas à ça. On fait des mesures comme ça. Enfin, moi, je me suis retrouvée à faire des CP dédoublés au mois de juin. Enfin, j'ai eu un mois pour préparer ça et personne ne s'est attaché aux locaux, aux personnes qui devaient le faire. Est-ce qu'on avait la formation pour ? Comment on mettait ça en place ? C'est toujours tout à la va-vite pour donner un affichage.
Quel que soit le gouvernement.
Quel que soit le gouvernement, avec quand même en toile de fond à chaque fois la suppression de postes.
Et des économies, on revient tout de même à la question des moyens. Même question sur le niveau, Lucien Marbeuf.
Oui, alors moi je suis toujours un peu embêté avec cette histoire de niveau, parce qu'il me semble que c'est un épouvantail sur quoi chacun greffe un peu ses peurs. La première chose, c'est que moi je vois aujourd'hui des élèves de 2019 qui sont capables de faire des choses que moi, élève, il y a 40 ans ou 35 ans, j'étais absolument pas capable de faire, d'un point de vue transversal, du point de vue de plein de choses. La deuxième chose, c'est que c'est toujours très pratique pour un ministre de dire que le niveau baisse, quelle que soit la tendance du ministre, parce que ça valide sa politique. Vous voyez bien, le niveau baisse, il faut faire quelque chose, il faut faire ce que je propose. Et ça, c'est récurrent. Or, le niveau baisse, il faut entrer dans le détail, il faut essayer d'interroger des experts de ces questions-là. Cette semaine, par exemple, en effet, l'étude de la DEPP sur la baisse du niveau de maths, il suffit de lire Rémi Bricciot dans le café pédagogique, oui. qui explique très concrètement, date par date, l'évolution sur les 30 dernières années d'une certaine conception des mathématiques autour du comptage, numérotage, qui pour lui, et on a du mal à pas le croire en effet, serait responsable en grande partie, parmi évidemment d'autres critères, de cette baisse. Or, c'est précisément la vision des mathématiques sur laquelle s'appuie actuellement le ministre pour remédier à ce qui a causé les problèmes pendant 30 ans. De la même manière, on dit la lecture baisse de niveau en lecture, etc. Donc, que fait-on ? Que fait le ministre ? On renforce les compétences en décodage, on s'attaque au code et la syllabique, etc. Or, les études internationales montrent que c'est précisément l'endroit de la lecture où les petits Français sont les meilleurs. Les petits Français peinent dans la compréhension. Or, c'est la compréhension qui naît pour ainsi dire, qui est un peu le parent pauvre de la lecture en France et
Lucien
dans les mesures.
Lucien Marbeuf, vous avez l'impression, mais peut-être c'est un peu mon impression que je vais donner là, que étant donné l'inquiétude qui plane autour du niveau, aujourd'hui, on a tendance à rendre de plus en plus précoce les apprentissages, commencer à décoder en maternelle, apprendre la comptine numérique et envoyer des signaux plutôt aux parents et au public et aux politiques finalement, et que la pédagogie elle se construit aussi comme ça, avec des rappels sur la dictée et le calcul mental qu'on n'a jamais arrêté, disent les enseignants, de pratiquer en classe. Quel est votre sentiment ?
Le niveau baisse pourquoi ? En grande partie parce que le nombre d'enfants en difficulté est stable, voire augmente, et ce sont ces enfants-là, ce qu'on a appelé les décrocheurs, qu'on n'arrive pas dont on n'arrive pas à hausser le niveau. Or, pour ces enfants-là, il faut une individualisation, une conscience aiguë de leurs difficultés personnelles très précises. Et que nous propose le ministre à travers le fameux guide orange dont je parle de la lecture au CP, c'est une avance à marche forcée, semaine par semaine, en disant période par période très exactement ce qu'il faut faire, comment il faut faire, à quel rythme il faut le faire, avec quel manuel il faut le faire. C'est-à-dire quelque chose de très prescriptif qui serait censé convenir à tous ces élèves-là qui justement sont faits de multiples particularités. Je vois pas comment c'est possible.
Catherine Da Silva.
Oui, c'est ce que je disais, c'est cette école-là, à chaque fois qu'on fait une loi, on ne se penche pas sur vraiment l'élève. Et là, dans cette loi, il est absent, l'élève, justement. Et on ne se penche pas sur les moyens qu'on peut se donner, justement, pour observer les élèves, voir où ils en sont, quelles sont leurs difficultés. Là, ils viennent nous sortir...
Les évaluations en CP, pour vous, c'est pas le sens...
Notre syndicat n'a pas appelé à ne pas les remplir, parce qu'effectivement, elles ne sont basées que sur le déchiffrage et l'encodage. Or, pour lire, il faut comprendre. Et tant qu'on n'aura pas fait des choses autour de ça, on n'y arrivera pas. Voilà, mais... Je voulais aussi parler de ce que M. Blanquer a sorti, parce qu'à chaque fois, il nous sort des petites marionnettes comme ça pour qu'on s'agite autour d'elles, sur punir mettre des amendes pour les parents qui auraient des enfants violents. Encore une fois, on rejoue à ça. Un enfant violent à l'école, c'est parce qu'il a plein d'autres choses autour de lui qui font qu'il est violent. Et tous les services qui sont autour de l'école et qui sont partenaires de l'école, comme l'aide sociale à l'enfance, la justice pour les mineurs, etc., ils sont, mais il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pour aider l'école à faire en sorte qu'elle soit concentrée sur son travail. Et c'est juste, et ça, il n'y a rien dans la loi de prévu pour ça. Sur le champ du handicap, il n'y a rien de prévu sur le recrutement de personnel pour aider les enfants porteurs de handicap.
On va parler de l'inclusion, mais vous vouliez réagir, André Robert, et je voulais aussi vous reposer cette question sur... En fait, envers qui communique un ministre? Est-ce qu'on peut faire de la politique? Et c'est une grande question de l'histoire scolaire de notre pays. Elle a été posée par des historiens comme Antoine Pro. Est-ce qu'on fait de la politique quand on réforme l'école ou est-ce qu'on agit pour l'éducation? Il y a toujours cette tension quand on parle des réformes scolaires.
Je pense qu'il n'y a pas eu de réforme, récente, qui n'ait pas suscité des réactions critiques de la part du corps professionnel. Cela est tout à fait manifeste. Il n'en reste pas moins que argumenter, comme l'a dit précédemment Lucien Marbeuf, et de manière assez dramatique et dramatisante, au nom de la baisse du niveau, cela pose un certain nombre de problèmes. J'ai même vu que le président du conseil scientifique de l'école, monsieur Stanislas Dehaene, prétendait que c'était au nom de l'avenir d'Homo sapiens que il fallait réformer l'école.
Il a dit dans ses termes.
Ces inquiétudes sont tout à fait légitimes. Et de fait, les grandes enquêtes internationales, et notamment l'enquête PISA, montrent des problèmes concernant l'école française et notamment un creusement des inégalités entre les meilleurs et les plus faibles. Ça, c'est extrêmement important. Et évidemment, c'est un problème qui se pose à tous les acteurs politiques et professionnels en vue d'améliorer le fonctionnement de l'école. Mais est-ce par des mesures, techno d'une part et neuro d'autre part, je fais référence à évidemment la place qui est donnée aujourd'hui aux neurosciences, qu'on va de manière un peu mécanique et selon des démarches tout à fait dirigistes et descendantes, réformer en profondeur l'école. Là où les enseignants ont un engagement professionnel réel, demandent certes des moyens, mais demandent aussi de la concertation et de l'écoute.
Alors, il y a quand même d'autres sujets et on s'aperçoit que les enseignants sont très écoutés. D'autres sujets où on peut se demander si l'intérêt des enfants est toujours pris en compte. Alors, je vais faire hurler tous les enseignants, beaucoup d'enseignants du premier degré. Les rythmes scolaires, finalement, on doit, entre guillemets, au ministre actuel d'avoir permis la semaine de 4 jours de revenir. Et c'est la solution adoptée par la grande majorité des communes. Cette semaine de 4 jours, elle est à peu près unique au monde. C'est très particulier à la France. C'est un rythme dont beaucoup de spécialistes du temps, de la chronobiologie, disent qu'il n'est pas forcément bon. Et pourtant, c'est celui qui convient le plus aux incités. Et c'est peut-être aussi sous la pression des professeurs des écoles que les 4 jours et demi ont été abandonnés. Alors, est-ce qu'on agit vraiment toujours dans l'intérêt de l'enfant? Lucien Marbeuf.
Bonne question. Moi, j'ai d'autant moins de mal à aborder ce sujet que je me suis toujours prononcé en faveur de la semaine de 4 jours et demi, avec samedi matin travaillé. Oui, évidemment, bien entendu, je pense que Au bout du compte, chacun voit toujours un peu midi à sa porte. Et sur cette histoire des rythmes scolaires, entre autres, j'ai les mêmes chiffres que vous. Au moment où Blanquer arrive, Monsieur Blanquer arrive, il y a 85% des enseignants, d'après un sondage, qui seraient pour arrêter les rythmes scolaires à 4 jours et demi. Bon, peut-être aussi parce qu'ils ont mal été mis en place. Il faut là aussi peut-être un petit peu de nuance. Peut-être aussi parce qu'on n'a pas suffisamment favorisé, là où les communautés éducatives le demandaient, le samedi matin. Bon, voilà, c'est toujours un peu plus complexe que ce qu'il n'y paraît. Maintenant, voilà, c'est vrai que d'un point de vue plus général, l'intérêt de l'élève, alors là, vous pointez les enseignants, et c'est vrai que je pense qu'il faut aussi qu'on se regarde, nous, très clairement devant la glace, voir nos propres ambiguïtés, nos ambivalences. Mais ça arrange un peu tout le monde qui est pas école le samedi, ça arrange un petit peu les parents qui ont pas besoin de se lever, ça arrange voilà, de même l'intérêt de certaines industries qu'on garde un certain zonage de vacances. Bon bref, l'intérêt supérieur de l'enfant est brandi par tout le monde, mais je crois que tout le monde ferait bien en effet de se regarder dans la glace, y compris les enseignants certainement.
Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, je voulais te dire deux mots. Je te parle en ami, vu qu'on se connaît depuis le berceau. Je t'aime bien, mais laisse-moi juste te dire que parfois tu délires et souvent tu fais pire. T'as 60 millions de gosses à assumer. Des petits anges, des petits diables. Ça fait un paquet de monde pour dîner. Je comprends que parfois, à table, tu pètes un câble. Petit pays, tout le monde te dit que tu déconnes quand tu les laisses dormir dehors alors que c'est tes mômes. La rumeur court sous les ponts et sous les trottoirs. Il paraît qu'ils portent ton nom et que tu veux pas les voir. Ton histoire est bien plus que celle d'une vie. Tu ne comptes plus les erreurs que t'aimerais oublier. Alors trop souvent, tu simules l'amnésie. Et comme mes frères et sœurs, je continue de t'aimer.
Petit pays, je t'aime beaucoup.
Ouais.
Petit, je l'aime beaucoup. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, je l'aime beaucoup.
Petit pays, tu m'as vu pousser. Depuis 28 ans, toi, t'as pas vraiment changé. À peu de choses près, tu tiens les mêmes propos, les mêmes défauts, cachés sous le même drapeau. Tiens, regarde, j'ai retrouvé de vieux clichés. On y voit le port de Nantes, en couleur sépia, je te reconnais pas. Qui sont ces hommes enchaînés? Au-delà de l'image, cette liste, c'est quoi? Petit pays, pourquoi dans ton journal intime avoir déchiré des pages et effacé des lignes? Pourquoi la main sur le cœur, cette étrange chanson? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. Avec ta langue maternelle et celle de tes ancêtres, tes enfants n'en font qu'à leurs lettres. Ils te parlent et tu restes blême quand ils disent je te kiffe pour te dire je t'aime.
Petit pays.
Hocus Pocus, quitte à t'aimer, c'est le choix musical de Philippe Baudouin, une chanson de 2007. Je souhaitais qu'on parle de l'inclusion, parce que l'école n'est pas immobile. Elle a un projet, peut-être qu'on peut faire remonter ce projet à 2005 avec la loi sur le handicap qui comporte un volet scolaire. C'est l'exigence pour l'école d'accueillir tous les enfants. Puis il n'y a pas que le handicap. Il y a les enfants dyslexiques, dyscalculiques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de 10. Il y a aussi les enfants précoces, les enfants en échec, et pas forcément dans toutes les disciplines, tout un tas de profils dont on sent que l'école peine à comprendre la diversité et surtout à l'intégrer. Donc c'est ce qu'on appelle l'inclusion. Tout le monde est d'accord aujourd'hui, ce projet scolaire fait consensus, et pourtant on sent que ça accroche à l'école et que cela pose beaucoup de difficultés aux enseignants sur le terrain. Catherine Da Silva.
Ça pose beaucoup de difficultés parce qu'effectivement la loi était belle et c'était difficile d'être contre, sauf qu'on ne nous a pas donné les moyens tout de suite. et donc ni en termes de formation, ni en termes de moyens humains pour accompagner ces enfants. Et on est toujours aujourd'hui, en 2019, dans cette situation où on n'a pas de personnel, les auxiliaires de vie scolaire, en nombre suffisant pour accompagner les enfants qui en auraient besoin. Et donc on se retrouve parfois, malheureusement, avec des enfants en souffrance dans la classe parce que personne n'est là pour les accompagner. Et du coup, ça renvoie l'enseignant à ça. Ben voilà, toujours, il est tout seul face à tout ça. Et que fait-il ? Est-ce qu'il dit non à l'enfant ? Et ça veut dire non à l'inclusion ? C'est horrible. Ou eh bien on dit oui, mais tout le monde en souffre, enseignants, enfants, l'ensemble de la classe. Et tout ça, c'est encore une fois le politique qui a eu de belles idées, et tant mieux, effectivement, tout enfant a sa place à l'école, mais pas n'importe comment. On accompagne, il y a des structures à mettre en place, il y a plein de choses qui existent et qui n'ont pas les moyens de permettre aux enfants, quelle que soit leur différence, d'être dans l'école.
Mais accordez-moi que ça va au-delà de la question du handicap. C'est finalement toutes les différences qui semblent être une pierre d'achoppement, et y compris même, on peut revenir sur la question sociale. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'élève que l'école attend, et ça va produire de la difficulté scolaire. Lucien Marbeuf, vous n'êtes pas forcé d'être d'accord avec cette analyse, et plus généralement sur la question d'inclusion, comme un projet qui peut-être se heurte à la culture scolaire, à la culture du métier, ou peut-être à un manque de formation.
La culture, ça se construit. Et pour que ça se construise bien, il faut une volonté politique. Et en effet, il faut se donner les moyens de faire ce qu'on demande. Et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. En 2005, moi, ça faisait pas longtemps que j'étais enseignant, j'ai découvert cette loi. Je me suis dit, ah voilà, une belle loi. C'est un beau concept. On parlait d'intégration, d'ailleurs, à l'époque, pas d'inclusion. Et puis, j'ai attendu qu'on me dise comment faire. Voilà, on est 14 ans plus tard et j'attends toujours. J'ai eu des dyscalculiques, des dysphasiques, des dyspraxiques, j'ai eu des TDA, j'ai eu des TDE.
Troubles du comportement.
J'ai eu des élèves précoces, des HP, des... Bref, on a une hétérogénéité dans nos classes qui est extrêmement importante. Pour partie, évidemment, ça fait partie de notre métier, et il y a toute une partie de ces particularités qu'on arrive à prendre en compte, et puis il y a toute une partie pour laquelle on est tout simplement pas formé. Alors certains d'entre nous cherchent des formations, on se renseigne sur l'autisme, on se renseigne sur ceci, on se renseigne sur cela, mais au final on reste démunis, et on est démunis face aux demandes des parents, face aux ressentis des enfants, et on est les premiers à être perdus.
André Robert, et puis ce sera la conclusion de l'émission.
En écho à cela, je crois qu'on touche là un des aspects du malaise enseignant. Hein. J'ai parlé de l'engagement professionnel de la majorité de ces enseignants, à l'intention de tous les enfants. Et je crois que ils sont pris en tenaille entre ce qui est leur référence culturelle majeure, qu'on pourrait appeler, un paradigme humaniste attaché à la réussite des enfants, qui entre en contradiction directe, alors pas depuis cette loi, mais déjà depuis quelques années, avec le paradigme de l'école de la performance et de l'école de l'obligation de résultat, qui est une école très dominée par un modèle économiciste.
Merci pour cette conclusion. Merci à tous les trois. André Robert, je rappelle le titre de votre livre, Professeur des écoles au XXIe siècle, écrit avec Françoise Caro et publié au PUF. On passe à la dernière rubrique de l'émission, La leçon de choses de Sophie Bobert. Que faire d'une enfance passée entre une Autriche encore sous l'emprise du nazisme à ses yeux et des parents rescapés, souvenirs révoltés avec la réalisatrice Ruth Beckermann.
J'étais une petite fille très courageuse, très aventureuse, je dirais. Et je suis restée une femme aventureuse. Bon, je suis née à Vienne dans les années 50. Je dois dire que c'était pas très marrant de grandir dans cette ville d'après-guerre. Toutes les maisons étaient grises et on a senti la guerre et on a surtout senti les nazis. Pas seulement senti, mais c'était très évident que Il y en avait beaucoup. À l'école, j'ai rencontré des enfants de ces familles antisémites et nazies. C'était pas une école catholique, mais la croix se trouve encore aujourd'hui dans toutes les écoles.
Même dans les écoles publiques.
Oui, dans les écoles publiques. Parce que c'est pas comme en France, qu'en Autriche, le catholicisme est la religion principale. Et l'Autriche a un agreement avec le Vatican et la croix se trouve dans toutes les écoles, toutes les classes.
Mais on n'en parlait pas, ça, des nazis, de la guerre dans les années 50-60, on n'en parlait plus. Vous avez senti le poids de ce silence lorsque vous étiez enfant?
Oui, c'était un silence parlante parce que les nazis ont parlé, pas d'une manière naziste, mais personne n'a parlé des victimes juives aux cigans, de Romains.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y avait une forme de déni.
Plus qu'un déni, c'était un mensonge de dire Autriche était le premier victime. C'était plus qu'un déni, mais c'était aussi un déni.
Il y a, Ruth Beckermann, dans votre film The Paper Bridge, des images de la Roumanie, des pays de l'Est, près de Tchernovitz, sont d'ailleurs des images signées Nourrit Aviv. Et ces images ont une couleur, une texture qui donne à entrevoir le passé comme si c'était une fable ou un conte. Et vous dites vous-même cette phrase, « Ces contes dans mon esprit se sont formés sur une scène vide ».
Oui, mon père voulait jamais retourner à Tchernovitz. Et pour moi, j'ai vécu avec les contes de ce shtetl et des villages qui étaient habités par des juifs et par des histoires. Je voulais, c'était une des raisons pourquoi j'ai tourné en hiver. Parce que je voulais avoir une ambiance de brouillard et d'hiver, des images un peu floues, parce que je suis retournée dans un pays sans juifs. Bon, il y avait quelque peu, très peu, mais c'était des restes d'une grande culture. Et à l'époque, c'était dans les années 80 quand j'ai tourné ce film, j'étais très occupée par ce sujet, de retrouver le passé, de regarder,
de réparer un petit peu.
Pas du tout, non. On ne peut pas réparer. Qu'est-ce qu'on peut réparer? Non.
La mémoire, de retisser les liens?
Non, il n'y a pas de lien quand il n'y avait plus rien. Il y a la mémoire, mais il n'y a pas des gens ou des endroits où on peut retisser ou réparer des liens, même à Vienne. C'est pas possible.
Et les documentaires de Ruth Beckermann, parmi lesquels la valse de Waldheim, sont actuellement projetés au musée d'art et d'histoire juive à Paris. La semaine prochaine, dans Être et Savoir, nous parlerons de poésie, comment la faire connaître, entendre, ressentir, et pas seulement à l'école. Et nous en parlerons en particulier avec la poétesse Cécile Coulon. Et dans deux semaines, nous aborderons l'épineux dossier des cantines scolaires. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu une annonce, la cantine à 1 euro pour les familles en difficulté. En attendant, vous pouvez retrouver nos podcasts et nous réécouter en ligne sur le site de France Culture, par exemple. Et puis, pour ceux qui nous écoutent en direct, n'oubliez pas, demain, lundi, les matins, avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Merci à Avril Ventura, avec qui je conçois et prépare cette émission. Merci à Philippe Baudouin, qui la réalise. Et merci à Emmanuel Morse-Duncan, qui était à la prise de son ce soir. Nous vous souhaitons collectivement, à toutes et à tous, une excellente soirée à l'écoute de France Culture.